Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel,
préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Chocot, qui publie La jeune fille aux yeux bleus dans la collection Témoignages de la Shoah, en coédition Fondation pour la mémoire de la Shoah et les éditions Le Manuscrit. Votre livre, Isabelle Chocot, se décompose en deux parties, ma vie d'avant et ma vie d'après. Pourquoi finalement avoir décidé de parler aussi de la femme que vous êtes devenue?
Écoutez, au départ, effectivement, je ne racontais que mon enfance très heureuse, la base d'ailleurs de ma personnalité, je pense. Ensuite, les études, enfin l'école, qui était aussi très importante. Et puis, la tragédie. Finir là-dessus, c'est ce que je fais au départ. Et puis, j'ai vu un jour... D'abord, c'était une jeune fille qui avait lu mes textes et qui m'avait écouté et qui a dit « Mais elle finit en queue de poisson. » Bon, je me suis dit « Queue de poisson, et pourquoi ça ? » Est-ce que ça voulait dire que il fallait une suite, qu'il fallait une fin plus heureuse, ou savoir ce qui s'est passé après, qu'est-ce que j'ai manqué là. Mmh. Et puis ensuite, j'ai témoigné un jour, c'était à la mairie de Paris, et c'était des petites classes, c'était des enfants très jeunes. Alors eux, c'était pas compliqué, ils ont couru derrière moi carrément après mon témoignage, puis ils m'ont dit « Madame, 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 et puis après, qu'est-ce que vous êtes devenue après ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous avez des petits-enfants ? Et qu'est-ce que vous avez fait après ?» Alors je me suis dit « Ben voilà, c'est qu'effectivement, ils veulent savoir comment, après une telle tragédie, on peut survivre. »
Alors on va commencer par l'avant, la vie d'avant. Votre livre débute comme un conte. Il était une fois dans une ville de Pologne, une petite fille. Son prénom était Isabella, mais on l'appelait Izia. Je lis les quelques premières lignes. Je m'éveille, dehors tout est blanc, la neige a recouvert les toits et le rebord des fenêtres. Je saute de mon lit et cours dans la chambre de mes parents pour me blottir dans les bras de ma mère. Cette chambre n'est pas très grande, mais elle représente pour moi le havre de paix, un symbole d'amour et de rêve. Et vous poursuivez en racontant le cadre dans lequel, le décor de cette chambre, puisque votre mère donc a fait commander pour son mariage la reproduction des meubles du château royal de Wawel en Cracovie, des meubles en bois de rose ornés de sculptures à motifs dorés,
je
etc.
Je le vois toujours. Mon enfance alors a été très heureuse et c'est ce qui m'a permis, je pense, en grande partie, c'est l'amour de mes parents, c'est le fait qu'ils ont toujours eu l'espoir que je pourrais survivre et ils ont toujours tout fait l'un à l'autre. Malheureusement, mon père est décédé au ghetto et ma mère à Bergen-Belsen, mais jusqu'à leur décès, ils ont essayé de me protéger. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne savais pas, que j'ai découvert après la guerre, parce qu'ils ont effectivement tout fait pour que je ne vois pas toutes les scènes horribles, pour que je ne sois pas mêlée à des foules jusqu'au moment où je suis restée toute seule. Et donc, dans mon enfance, j'étais fille unique. Mes parents n'étaient pas très jeunes. D'ailleurs, à cette époque-là, ma mère, m'ayant eu à l'âge de 30 ans ou environ 30 ans, ça paraissait être presque une vieille fille à l'époque. Et elle s'est mariée assez tard. Elle a eu le temps donc d'avoir sa pharmacie, de travailler, d'avoir un peu d'argent.
Et... Oui, c'est une femme active. Hein. Les femmes de votre famille, elles travaillent à la pharmacie, elles font des études.
Tout à fait, c'est une femme très active. Elle a toujours beaucoup travaillé. Et mon père a beaucoup travaillé avec elle, mais mon père était, son histoire était tout à fait différente. Il est né dans une très grande propriété, une très belle propriété. J'avais des photos, malheureusement, elles ont disparu. Et c'était une des très rares familles juives qui possédait des terres, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de posséder des terres en Pologne. D'ailleurs, ils étaient inscrits comme régisseurs, mais tout le monde savait que c'était des propriétaires. Et ainsi, mon père m'avait dit quand j'étais petite, « Eh bien, tu sais, tous les Strauch et Serzach de cette région, ce sont des familles qui possédaient des terres et c'est notre famille. » Et ça m'est resté dans l'esprit toujours. D'ailleurs, les paroles de ma mère, les paroles de mon père et la vision de mon enfance m'a permis, dans beaucoup de cas, de fermer les yeux sur l'horreur et de voir ce que je voulais voir. Mmh.
Votre père avait été dépossédé de ses terres, hein, si je... non?
Absolument.
Oui, c'est ça.
14-18. Oui. Mmh. L'année 14-18, alors là, ce que j'avais entendu, ce dont je me rappelle, mais ça je ne suis pas 100% sûre, c'était que les Cosaques sont venus et ont chassé les familles de leurs terres. J'ai d'ailleurs retrouvé les documents de ces villages et j'ai été invitée après la guerre, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'ai été invitée par la mairie et par les gens qui savaient très bien ce qui s'était passé là-bas.
Vous êtes inscrite dans une école aussi très d'avant-garde, on pourrait dire,
hein,
qui s'appelle Notre École.
Tout à fait.
Vous pouvez nous en dire
c'est
un mot.
C'est une école qui serait tout à fait à la page aujourd'hui. C'était des femmes qui l'avaient créée. Moi, je me souviens de deux femmes, de leur nom, Madame Leibenhaft et Madame Seligson. Dans cette école, nous avions un journal. On n'avait pas de leçons de religion. La religion était apprise par l'histoire et par la science. C'était une école laïque, donc en Pologne, c'était extrêmement rare.
Et peut-être qu'on peut en venir justement à cet été 1939. Vous partez en colonie de vacances, comme tous les étés, c'est ça?
Comme tous les étés.
Et là,
parce que mes parents travaillaient beaucoup, ne prenaient pas de vacances comme moi.
Et là, vous décrivez très bien que la fin de l'été approche et on entend des rumeurs, hein, que la guerre est là. Et cet été, vous sentez qu'il se passe quelque chose de différent parce que vos parents ne sont pas là, attendent
sont
pour
pas
vous,
arrivés
sont
à
pas arrivés.
Tout
et
de
vous
suite.
Les attendez dans cette colonie vide.
Qui s'est vide
qui
complètement.
Qui s'est vidée complètement. Il y a des très belles pages sur cette fin... Voilà, cette fin d'été qui est aussi la fin d'un monde. Hein,
Tout à fait. Là, la page était complètement tournée. Ça n'a pas, d'ailleurs, si vous voulez, cette image que je décris, quand nous sommes arrivés avec ma grande valise, parce qu'il fallait que je sois très bien habillée, à la gare, que ma mère s'est assise sur cette valise, et quand elle l'a dit devant nous, ça je n'oublierai jamais, bien sûr, il ne faudrait pas défaire les valises, il faudrait partir plus loin.
Mais pour partir, il faut de l'argent, il faut des visas,
il faut
laisser votre grand-mère qui est là, il y a la pharmacie.
La famille, la pharmacie.
Alors vous restez et très vite, vous êtes donc enfermée avec tous les Juifs de la ville dans le ghetto.
Dans les ghettos.
Alors comme vous ne manquez pas d'humour, il y a un passage assez drôle où vous racontez que votre mère, qui était très prévoyante, pleine de ressources, avait emporté dans le ghetto des produits de la pharmacie juste avant qu'elle lui soit confisquée. Hein. C'est une scène très, très dure aussi où elle doit remettre les clés de la pharmacie aux
inconnus.
Oui, à des inconnus comme ça. Mais elle a emmené donc des produits et donc vous dites, pendant toute la guerre, pendant presque toute la guerre, je me laverai la tête avec du shampoing français.
Oui, parce que ma mère emportait en même temps des produits de beauté et notamment Guerlain. Donc, Soir de Paris, Guerlain, des choses comme ça, je me souviens des boîtes. Je me souviens, et j'en ai toujours une là. Une boîte.
Oui, que vous avez gardée.
Oui.
Et grâce à votre mère, à sa débrouillardise, la vie dans le ghetto n'est pas aussi terrible qu'elle pourrait l'être ou qu'elle a été
qu'elle
pour
a
l'autre.
Été pour
hein,
d'autres.
Si je vous suis
et
bien.
Et mes tantes aussi, puisque nous sommes restées très unies en famille. Ma mère ayant eu l'idée de chercher une maison, puisqu'on avait 5 mètres carrés, on nous a octroyé 5 mètres carrés par personne au ghetto. Pour nous trois, mon père, ma mère et moi, c'était 15 mètres carrés. Il n'était pas question de déménager notre appartement dans 15 mètres carrés. Donc il y avait juste un grand lit pour mes parents, un petit lit pour moi, une table, 3 chaises, un petit poêle qui chauffait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas assez de combustible, mais sur lesquels on pouvait chauffer un peu d'eau, chauffer un peu de nourriture. Et puis, contre les murs, cette fameuse armoire qui contenait ces médicaments, quelques médicaments et des produits de beauté que ma mère
pensait pouvoir échanger. Des témoignages de votre vie d'avant, quoi, en quelque sorte. Ça. De votre vie plutôt bourgeoise d'avant, on pourrait dire. Enfin,
absolument.
Oui. Au ghetto, vous allez
mais
à l'école.
Mais l'esprit, si vous voulez, bourgeois, tel qu'on le conçoit, ce n'était pas du tout l'esprit de mes parents.
Oui, ça, c'est très important. Ils vous ont appris la générosité.
Voilà, si vous voulez, les valeurs humaines
justice,
chez nous.
La tzedaka, on pourrait dire, enfin, oui. le sens.
Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans notre école, on avait pour devoir d'amener tous les jours un petit déjeuner pour les enfants plus défavorisés que nous et qui venaient des autres écoles chercher ces petits déjeuners. Et quand on oubliait de l'amener, on retournait à la maison.
Alors, vous racontez qu'au ghetto, vous allez à l'école, parce qu'il y a une école au ghetto, jusqu'à ce que les Allemands le découvrent et suppriment l'école.
Un an.
Voilà, ce qui vous force ensuite à travailler. Vous tombez malade, mais malheureusement, votre père, d'une certaine façon...
Ne supporte pas déjà les privations du ghetto.
C'est ça.
Parce qu'on a beau vivre dans des conditions meilleures, mais on a faim tous les jours. On n'a pas assez de nourriture, malgré tous les efforts de la famille. Et une de mes tantes apporte de l'huile de foie de morue. Là aussi, je décris comment ma mère a expliqué aux enfants que c'était tellement bon qu'il fallait lécher les cuillères. Et donc, les enfants de la famille avaient l'huile de foie de morue, ce qui nous permettait aussi d'avoir quelques nourritures, entre guillemets, quelques calories. Mais on avait tout le temps faim. Au ghetto, on avait faim. Tout le temps. Donc, je pense que nos estomacs, d'ailleurs, ont dû rétrécir. Et par la suite, je voyais des gens qui avaient très, très faim. J'ai vu des gens qui devenaient... dont la tête a complètement... qui ont complètement disjoncté. Et c'était horrible. Et moi, j'avais plus froid que faim en suivant pendant des années. Ainsi que pendant les travaux forcés où nous travaillons dehors avec des robes rayées, il y avait plus froid que faim. Et c'est là que mon esprit partait toujours quelque part pour pouvoir survivre, penser à quelque chose, un monde qui existait quelque part encore.
Alors, vous dites que pendant le ghetto, enfin, pendant que vous étiez dans le ghetto, vous évadiez dans les livres et ensuite ça a été donc dans un monde
parce
imaginaire.
Après, on n'a pas de livres.
Après, vous n'aviez plus de livres. Donc
c'est
là,
fini.
C'était plus.
Pendant les ghettos, pendant tous les ghettos, moi, j'avais mes livres.
Oui, là, vous avez lu, mais ensuite.
Il y avait une bibliothèque aussi jusqu'à ce que les Allemands ne brûlent et tout. Et tout a été fini, l'école, les livres et tout, et les concerts. Mais moi, j'avais des livres. Et c'était la bibliothèque de prix Nobel de littérature qui est passée dans ma tête. Bjørn Bjørnson pour la Suède, Victor Hugo, évidemment, pour la France, et aussi, évidemment, les grands écrivains français, jusqu'à même George Sand.
Que vous avez lu dans le ghetto de Lodz.
C'était incroyable ce que nous avons pu avoir. Et nous avions encore quelques nouvelles aussi.
Oui, alors vous aviez un poste émetteur-récepteur qui était caché dans l'immeuble où vous étiez et qui vous donnait une nouvelle du ghetto de Varsovie. Est-ce que vous vous souvenez de ça, de
Tout
ce
à
moment-là
fait, c'est-à-dire que nos jeunes, enfin les jeunes plus âgés que moi, parce que moi j'étais la plus jeune à ce moment-là, au ghetto j'avais entre 11 et 15 ans. À la fin seulement j'avais 15 ans. Alors qu'eux, ils avaient tous entre 17 et 20 ans. Et c'était une grande différence, évidemment, à ce moment-là. Et il ne voulait pas tellement me dire où était le poste émetteur-récepteur. Mais moi, je savais très bien où il était au grenier. Mmh. Et puis je me disais, je n'aurais rien dit de toute façon. Je savais bien qu'il ne fallait pas le dire. C'était puni de mort au ghetto. Mmh. Le poste émetteur-récepteur, c'était puni de mort. Et donc, ils auraient certainement voulu faire quelque chose parce que la situation devenait de pire en pire et on se rendait compte qu'on ne savait pas si on allait pouvoir survivre. Mais il ne faut pas oublier qu'au ghetto de Łódź, il y avait pas mal de femmes, d'enfants, des gens âgés et des malades qui, au fur et à mesure, étaient évacués quand le camion venait toutes les semaines, entourés des rues, nous faisaient descendre et prenaient des malades, des vieillards et des gamins, des petits-enfants, en nous disant toujours les mensonges, toujours les camouflages. Comme d'habitude, les nazis ne faisaient que ça, mensonge sur mensonge, racontaient des histoires qui ne tenaient pas debout, mais on ne les savait pas. Et nous racontaient des choses en disant ils vont être soignés beaucoup mieux qu'au ghetto, puisque au ghetto, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de ceci, cela. Et ma mère, évidemment, très vite, ne croyait plus à ces racontars.
Parce que quand arrive la liquidation du ghetto, elle vous cache. Hein,
elle décide de se cacher.
Elle a même prévu une cachette
tout
qui ne fonctionne pas.
Elle ne croit plus à ce qu'on raconte. Mmh. Il y avait des grands placards. Rendez-vous à la gare, rien ne vous arrivera. Vous allez aller travailler en Allemagne en famille. Il y avait même des gares, quand on traversait des gares camouflées avec de fausses pendules, de fausses images et tout, pour qu'on s'imagine qu'on traversait des choses qui n'existaient pas.
D'ailleurs, vous reproduisez dans votre livre plusieurs documents, par exemple, là je l'ai sous les yeux, un avis qui invite les habitants du ghetto à se présenter volontairement pour les convois de déportation, en trompant évidemment
tout
les gens.
Ma mère ne va plus.
Oui. À la fin du mois d'août 1944, donc, vous êtes déporté avec votre mère à Auschwitz-Birkenau, vous échappez à la sélection, bon, d'abord parce que vous êtes aussi en bonne forme physique et puis parce qu'on vous a dit, attention,
j'ai l'air plus âgée
allez
toujours.
À gauche c'est la mort, à droite
alors,
c'est
ça,
la vie.
Alors ça c'était le miracle, parce que s'il ne m'avait pas dit ça, j'aurais peut-être pas entraîné ma mère avec moi.
Oui, bien sûr.
Ça, le fait de m'avoir dit ce qui s'est passé et le fait que moi j'essaye de le dire au maximum des personnes qui sont là, j'espère qu'ils ne m'ont pas pris pour une folle.
Vous disiez à gauche, discrètement aux gens, en sachant que voilà, c'était ça ou la mort. Je rappelle juste que votre mère a emporté du ghetto vos bulletins de classe, hein, dans un petit sac. Je trouve que c'est une anecdote très touchante et qui en dit long sur votre mère et
c'est pour vous rendre
et l'importance de l'éducation,
l'importance de l'école, l'importance de l'éducation et surtout la méconnaissance complète d'Auschwitz-Birkenau.
Complètement, oui.
Complètement, ça s'est échappé à tout le monde, on ne savait pas où on allait.
Oui.
Et notre poste émetteur-récepteur était des ondes courtes. Varsovie est très proche de Łódź, enfin assez proche, mais on n'avait pas de nouvelles du monde, évidemment pas.
Vous ne saviez pas du tout où vous arriviez.
Non.
Alors vous restez 8 jours et vous êtes conduite ensuite avec votre mère au camp de travaux forcés de Waldesluft, oui. Où vous travaillez donc pour l'entreprise allemande Hortif. Vous faites des travaux de terrassement, c'est ça, enfin extrêmement difficile. Malheureusement, on n'aura pas le temps de raconter en détail, mais ensuite vous restez là jusqu'à février 45. Où vous êtes donc face à l'arrivée des Russes, en fait.
On ne les sait pas.
Oui. Vous êtes de nouveau déporté, là, cette fois, à Bergen-Belsen.
Mais là, quand même, les prisonniers français, là, à Waldesluft, on survit beaucoup grâce aux prisonniers français. Parce qu'on a un peu de nourriture, et surtout moi, bon, il y a un Français qui tombe amoureux de moi, donc tous les jours il m'apporte
des colis,
qu'il pleuve ou qu'il vente. S'il n'a pas sa camionnette, il vient en vélo, mais les autres également apportent pour les femmes. Et ce que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps, parce que je ne pouvais pas traduire de l'allemand toujours parce que ça me faisait trop mal au cœur, c'est que Waldeslust, je ne voyais pas les femmes malades, les femmes mourantes. Eh bien, tout simplement parce que dès qu'une femme ne pouvait pas travailler, on l'a envoyée mourir à Bergen-Belsen et on ramenait de nouvelles femmes d'Auschwitz-Birkenau.
Un renouvellement de la,
moi,
de la main-d'œuvre servile.
J'ai tenu le coup presque jusqu'au bout, mais dans l'état dans lequel j'étais, là aussi c'est un miracle. Et ma mère est morte un mois avant la libération.
Vous vous laissez dépérir, mais deux compagnes d'infortune vous disent « on a besoin de toi, aide-nous, parce que toi tu peux encore nous trouver à manger, nous on ne peut plus ». C'est grâce, c'est votre, finalement c'est cette éducation que vous avez reçue de venir en aide qui vous sauve, puisque là vous décidez de vous... coûte que coûte, de vous lever et la vie reprend.
Parce qu'effectivement, dans l'état dans lequel j'étais, le fait que je sois toute seule, plus sans espoir, je me laissais complètement aller en fermant les yeux, en me disant c'est fini. Et si ces deux femmes n'étaient pas là, effectivement, je n'aurais pas fait l'effort, un effort surhumain pour... aller chercher cette fameuse soupe.
Et vous, aujourd'hui, vous consacrez beaucoup de votre temps à témoigner dans les écoles. Vous publiez d'ailleurs en annexe de ce livre des lettres de jeunes qui vous expriment à la fois leur reconnaissance et leur admiration. C'est une très bonne idée d'ailleurs de les faire figurer en annexe. Ma dernière question, ça sera après tout ce que vous avez traversé, est-ce que vous êtes optimiste quant à la nature humaine, qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui le renouveau de l'antisémitisme?
Vous savez, après la guerre, après notre tragédie, il n'y avait que deux solutions. Ou finir, terminer sa vie, se suicider, partir. Ou décider de vivre. Et cette décision, je l'ai prise, évidemment, en pensant à mes parents et en pensant à ce que j'aurais encore peut-être à faire, suivant ce qu'on m'a inculqué quand j'étais enfant. Et en décidant de vivre, eh bien, l'espoir que j'ai toujours eu, je l'ai toujours. Si je perdais l'espoir dans l'homme, je ne pourrais pas vivre. Aujourd'hui, j'ai toujours l'espoir dans l'homme et je crois dans l'avenir. Mais je crois dans un avenir qu'il faut préparer. Que les jeunes, justement, sachent ce qui peut se passer quand il règne le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre parce qu'il est différent. Attention aux valeurs humaines, le droit de l'être humain, le respect de l'être humain et surtout des enfants. Un jour d'ailleurs, quand j'ai témoigné à Dreux, on m'a signalé qu'il y avait pas mal d'antisémitisme, j'ai parlé de tout comme d'habitude, de racisme, d'antisémitisme, etc. Et j'ai dit... À la fin, j'ai dit, et surtout, on ne touche pas aux enfants. Imaginez-vous que toute la classe s'est levée et a commencé à parler, à scander avec moi, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux enfants.
Merci Isabelle Chocot pour ce très beau témoignage. J'en profite pour annoncer que le Mémorial de la Shoah organise son premier salon du livre le dimanche 7 et, 8 juin, et lundi 8 juin. Avec pour thème de cette première édition, le livre pour témoin, vous dédicacerez votre livre dimanche 7 juin à 14h30. Et à la même heure, il y aura une table ronde sur le thème « Écrire sa survie » autour de la collection « Témoignages de la Shoah » en présence notamment de Philippe Veil, qui est responsable de la collection, et qui sera animé par Claude Boschurberg, qui est à la fois journaliste et auteur. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.